la lumière ni l'obscurité ne sont là où on le prétend. La bibliothèque du peuple, lecture sur place, prêt gratuit, anonyme et par correspondance. Info sur www.libertaire.noblogs.org.
Voilà. Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à toi. Nous sommes ici sur la plaine de Plainpalais à Genève à l'occasion de la dernière journée de la BIG, la Biennale d'art contemporain indépendant de Genève. Et nous sommes arrivés au moment où à l'espace Kugler, qui depuis trois jours nous accueille très gentiment, et on tient d'ailleurs à en remercier la présidente qui est parmi nous, Stéphanie Prizreni. Je dis juste. Hein.
Oui, tout à fait, c'est Prizreni. Alors en fait, moi je suis présidente de la Fédération des artistes de Kugler. Et puis l'espace Kugler, c'est un collectif qu'on gère avec Marisa. Donc on pourrait dire qu'on est co-présidente plutôt. Mais voilà, présidente dans le sens statutaire, puisque c'est ça qu'il faut pour les assos. Et sinon, on est finalement un collectif, simplement.
Ouais. Non, mais ça me permettait, si ça me donnait l'alibi, de te lancer la parole comme ça.
D'accord, c'est merci. Ça.
Et effectivement, parmi nous, autour de cette table, à l'occasion de cette table ronde que vous organisez, autour de cette thématique qui a régné durant ces trois jours autour de la Divine Comédie de Dante Alighieri, eh bien, cette table ronde y est consacrée.
Tout à fait.
Et donc, pour cette table ronde, nous accueillons ici, autour de cette table, eh bien, également Marisa, qui est donc, comme tu viens de le dire, une collaboratrice. Enfin, vous travaillez ensemble.
Voilà, partenaire, oui, voilà, co-curatrice, partenaire. Effectivement.
Ouais. Du coup, on va peut-être, je sais pas, Marisa, veux-tu te présenter en quelques mots également ?
Bonjour. Oui, je suis une artiste et aussi auteur de temps en temps, qui a travaillé sur l'exil, la migration depuis pas mal de temps. Je suis née au Chili et j'ai vécu la migration forcée depuis 2 ans. Et j'habite près de Genève depuis presque 10 ans et j'ai l'honneur d'être ici parmi vous.
Très bien, eh ben, bienvenue et merci de nous accueillir encore. Se trouve parmi nous également Jérôme Bixel, qui est toi-même, tu es artiste et permaculteur. Et tu es ici à l'occasion d'une performance qui a eu lieu hier, avant-hier. Non, c'était hier. Enfin, elle s'est un petit peu déployée sur plusieurs jours, dira-t-on, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Quelle était cette œuvre mobile que tu as fabriquée, que tu as produite, que tu as créée, pardon ?
Alors, l'œuvre mobile en question, elle était... initialement, il aurait dû avoir une performance avec l'œuvre mobile. L'œuvre mobile ayant perdu des roues, elle ne pouvait difficilement se... être aussi mobile qu'elle le voulait, donc la performance ne s'est pas déroulée comme c'était prévu. Elle s'est déroulée lorsqu'on avait eu l'exposition à l'espace Kugler. On aurait voulu la réitérer dans ce cadre-là, mais alors la performance était effectivement de venir jusque-là. De venir jusque-là, c'est devenu la performance, mais avec pas seulement des roues qu'on perd, etc., mais aussi avec des gens qu'on rencontre et qui viennent nous aider. Donc c'était aussi un aspect qui, les deux soucis que j'avais, c'était l'un, perdre les roues, alors on l'a eu en plein, et puis l'autre souci que j'avais, c'était le fait d'avoir la police qui vient, qui nous arrête sur la route, qui ne nous laisse pas passer. Et là, pas du tout. La police municipale est venue nous voir plusieurs fois, nous ont salué gentiment et nous ont laissé continuer, voyant bien qu'on n'allait pas les abandonner.
Au milieu là. De la...
Alors, l'œuvre, elle est constituée de 3 bacs qui parlent de la permaculture. On peut l'intituler Permalove Culture parce qu'elle a été, peinte sur ses faces. Elle est ronde, elle est partagée en trois parties égales. Et dans ces trois parties, il y a différents aspects de la permaculture que j'ai abordés.
Très bien. On reviendra là-dessus de toute manière dans un entretien en particulier. Juste avant qu'on ne présente l'oratrice du jour, donc Hélène Leblanc, qui va également se présenter un petit peu elle-même. Mais j'avais juste envie, avant cela, que Stéphanie, tu nous en dises un petit peu plus sur le choix de cette thématique, de cette ligne conductrice sur ces trois jours. La Divine Comédie, c'est quand même un texte qui date de 1300...
Oui, 1300, un peu après en fait. Après. On considère que ça a été écrit dans le début du courant du XIVe siècle.
Voilà, alors est-ce qu'un texte de cette époque-là peut-il trouver une actualité, peut-il trouver une résonance avec ce qui se passe et les temps troubles qui nous assiègent ?
Tout à fait. Alors en fait, l'idée de travailler sur la Divine Comédie, ça revient à Marisa. Donc elle avait eu plusieurs... parce qu'elle travaille aussi sur les rêves, etc. Et elle avait envie de faire un travail là-dessus. Et puis, moi, j'ai toujours été assez intéressée par les questions de théologie, de cosmologie, de spiritualité, etc. Et puis, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce qu'en fait, il y a beaucoup de sens, beaucoup de symbolique. Et puis, il y a aussi beaucoup d'effroi hein, quand même dans ce cheminement. Et finalement, c'est un peu un voyage. Hein, c'est un voyage, une sorte et aussi d'étape de la conscience pour moi. Hein, c'est disons qu'une interprétation un peu particulière. Et puis j'avais jamais lu la Divine Comédie, donc je l'ai lu. J'ai aussi fait un petit peu des recherches, etc. Et effectivement, aussi en comprenant l'histoire un peu de Dante, son parcours, on voit aussi que c'est une œuvre qui a été écrite dans un moment d'exil, mais c'était aussi quelqu'un d'extrêmement érudit, aussi quelqu'un qui avait fait beaucoup de théologie. Donc il y a énormément de références, et dans l'histoire de l'art, c'est très important, parce qu'en fait, toute l'histoire de l'art européenne, elle était basée sur l'histoire chrétienne. Enfin, disons, et je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est non négligeable, quoi. C'est quand même un apport fondamental. Et puis après, on a discuté. Donc il y a Janice Schroeder qui nous a rejoint. On a beaucoup parlé. Il a fait aussi beaucoup de recherches. Et puis on a trouvé ces trois états, c'est-à-dire ces trois chemins, ces trois entrées qui sont en fait, bien sûr, l'enfer, le purgatoire et le paradis, qui sont des différents moments, peut-être aussi de la vie humaine, tout simplement. En fait,
voilà. D'accord. Et de quelle manière est-ce que vous avez, ces trois jours durant, et là justement ça va nous donner la transition à ce que Hélène Leblanc puisse intervenir juste derrière, de quelle manière vous avez abordé le sujet de la Divine Comédie ici même très concrètement avec les visiteuses et les visiteurs qui sont passés? Parce que c'est vrai qu'une big biennale de ce type-là rencontre un public très diversifié. Et alors voilà, je me demandais de quelle manière vous avez proposé ces ponts pour que les personnes s'approprient d'une certaine manière cette Divine Comédie.
Alors en fait, on est passé avec un médium très, je dirais, un peu arte povera, très contemporain, c'est-à-dire alors une construction avec des matériaux de récupération, avec des matières organiques pour faire en fait la porte de l'enfer, qui est en fait bien sûr inspirée par la porte de Rodin, mais avec donc dans des moyens contemporains et complètement de récupération. Et puis une approche avec un psychoanalyste dont parlera Marisa, et puis avec Hélène Leblanc qui est en fait une spécialiste universitaire sur le texte. Donc c'est vraiment très précis et très académique, ce qui est très bien parce qu'en même temps, comme c'est un texte où on peut un peu dire tout et enfin tout ce qu'on veut, c'est aussi bien d'avoir un point de vue très scientifique, disons, sur le texte. Et puis avec la médiation avec les gens, ça a été moi j'ai trouvé un peu compliqué parce qu'en fait dans le cadre de la Big, il y a beaucoup de gens qui passent, c'est un peu de l'amusement aussi pour certains, et c'était difficile en tout cas par exemple au vernissage que les gens vraiment s'intéressent. Alors hier soir ça s'est beaucoup mieux passé, semble-t-il. Les gens sont rentrés dans le sujet, ils ont essayé de comprendre, ils ont regardé les vidéos. Moi j'ai fait une vidéo plus ou moins illustrative qu'on voit pas la journée mais qu'on voit le soir, qui est que des images, qui sont en fait des collages d'images qui sont finalement que je ressens un peu sur les trois textes, mais de manière tout à fait illustrative. Et il y a eu aussi une partie d'atelier de dessin où les gens peuvent participer en apportant, finalement en créant des œuvres supplémentaires. Et je voulais dire aussi qu'il y a Louis Pinoléo qui nous a rejoint, qui nous a beaucoup aidé, donc aussi pour la logistique, etc., qui n'est pas là aujourd'hui, et qui a aussi travaillé à fond, qui a fait toute la mise en scène, avec notamment les écrans avec les cartons autour, pour habiller un peu aussi avec ce côté un peu arte povera comme ça.
Alors voilà. On en profite pour le saluer, Louis, parce que c'est vrai qu'il a été c'est le costaud de l'équipe.
Oui, hein, tout à fait.
Marisa, toi qui étais là également hier soir, dernière question avant qu'on entre dans le vif du sujet, mais je pense que c'est bien de s'y plonger un petit peu pour les personnes qui vont écouter ces informations-là, qu'on n'y aille pas de manière complètement abrupte, disons. Marisa, quel retour as-tu pu percevoir du public concernant la Divine Comédie? Est-ce que les gens se sont interrogés justement au jouet de jeu, se sont posés des questions par rapport à ça, ont abordé des sujets tels que l'exil, l'onirisme, toutes des choses qu'abordent, et pas que, hein, parce qu'on sait que dans la Divine Comédie, il y a pléthore de choses, mais... Voilà.
Oui, je pense que hier aussi la météo a joué un rôle. Après l'abysse, on avait un moment de fraîcheur, et je sens dans ce moment-là, les gens qui sont approchés à notre installation avaient des vraies questions. Et par exemple, pourquoi il y avait un esquizoanalyste qui travaillait sur l'écosophie, Et pourquoi il y avait quelque part la lecture aussi d'Hélène qui est plus proche de texte? Parce que c'est deux visions très différentes. Et hier, oui, on a fait un petit peu plus la médiation. Et je sentais que finalement, ces deux points de vue, c'était très intéressant pour aujourd'hui, en répondant à les questions. Parce que quelque part, l'éco-sophie parle de qu'il n'y a jamais un lieu qui est complètement l'enfer, ni jamais un lieu complètement qui est le paradis. Dans l'époque contemporaine, on est dans un glissement constant entre les deux mondes. Et quelque part, on se perd aussi. Le paradis peut devenir vite l'enfer. On a pensé plus dans le sens que notre société actuelle, ici à Genève, on a tellement de ressources, on a accès à tellement de biens matériels. On pourrait dire on vit dans une espèce de paradis où on peut acheter tout, voyager partout, avoir tout quand on veut maintenant, enfin. Que ça pourrait être quelque part l'idée que la Divine Comédie donne le paradis, mais en même temps, ça peut devenir aussi l'enfer, parce que tu deviens tellement entouré des choses, tellement attrapé par le matériel, que tu n'arrives plus à bouger et tu es figé sans pouvoir vraiment avoir une choix. Et ça s'est soulevé en partageant le projet avec le public. C'est bon. Et surtout par tout ce que Hélène nous a partagé aussi.
Ah bah justement, Hélène, le temps Merci. Est venu de lui donner la parole. On va peut-être juste inviter les personnes qui sont autour de nous. Si jamais, n'hésitez pas à prendre place. Il y a des chaises par ici, par là. Il y a un banc même là qui est à l'ombre. Donc c'est une table ronde autour de la Divine Comédie dont on commence de parler maintenant en fait. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher puis à vous asseoir également là. Alors Hélène Leblanc.
Bonjour.
Bonjour. Donc tu es collaboratrice recherche au département de philosophie de l'Uni de Genève.
C'est ça.
Et donc effectivement, tu t'es longuement intéressée à la Divine Comédie de Dante Alighieri. Mais pas comme. Et tu es actuellement philosophe du langage.
C'est ça.
Alors effectivement, on pourrait commencer par, avant que tu n'entres en matière concernant la Divine Comédie, selon toi, y a-t-il également, parce qu'on a vu là, on a parlé un peu des enjeux, des postures, des dessins, dans la Divine Comédie, y a-t-il également un enjeu linguistique? Parce qu'on sait que c'est peut-être un peu ça qui a fixé la langue italienne également. Oui. Le toscan est devenu finalement la référence de l'italien.
Mmh. Oui, alors bien sûr, il y a un enjeu linguistique qui est clair au niveau historique, où la langue dans laquelle Dante écrit est une langue qui est régionale, donc c'est le toscan, d'une période bien déterminée, qui maintenant est du coup assez difficile à lire. Mais c'est une langue qui est aussi extrêmement novatrice, parce qu'il fait vraiment beaucoup de néologismes, donc c'est un problème qui se pose, par exemple, dans la traduction de la Divine Comédie dans quelques langues que ce soit. C'est que c'est difficile de reproduire à la fois les archaïsmes qu'on y trouve pour un lecteur d'aujourd'hui et en même temps le caractère extrêmement novateur de l'écriture de Dante.
Il n'y a, me semble-t-il, pas un original référent de référence qui existe aussi.
Au niveau de manuscrit ?
Oui.
Non.
Non, c'est ça.
Il n'y a pas d'autographe.
Ouais, exactement, il n'y a pas d'autographe. Donc ce sur quoi on s'appuie, ce sont des copies.
Oui, c'est les premières éditions, en fait, je crois, sur lesquelles on s'appuie.
Donc on ne sait pas si elles ont été peut-être un petit peu amendées ou un petit peu, disons, sans, finalement, on n'a aucun élément pour le dire
non,
ou pour le
alors,
démentir.
Je crois que la question se pose surtout pour Le Paradis qui a été publié après la mort de Dante. Pour les deux premières parties, le problème se pose moins parce qu'il y avait déjà eu une édition, donc on peut supposer que s'il y avait eu des erreurs... il aurait peut-être réagi à l'époque.
Enfin, tout à fait.
C'est des suppositions, mais évidemment, enfin, le problème se pose pour tous les écrits qui ont été publiés il y a aussi longtemps.
Exactement. On va peut-être en faire lire un petit bout, d'ailleurs, si ça se trouve, quelqu'un serait ensuite volontaire pour en lire un petit bout en italien. En italien, comment est-ce qu'on appelle cette forme de langage en italien
En italien, on pourrait dire médiéval.
Médiéval,
ouais. Oui. Oui.
Encore une singularité, avant que tu ne te lances complètement, mais j'avais encore cette question-là. Le titre de la Divine Comédie n'était pas le titre originel de l'œuvre.
Non, pas du tout. Dante parle de sa comédie, et il parle de comédie au sens où ça finit bien, puisque ça finit au paradis, donc ça finit plutôt bien. Et il en parle aussi comme d'un poème sacré, donc vraiment comme d'une tâche dont il a été investi dans un but didactique pour sauver les hommes. Mais du coup, l'adjectif divine a été ajouté ensuite par Boccaccio.
Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, on va te céder la parole. Je ne sais pas si tu veux peut-être nous expliquer l'époque, la date, enfin toutes ces choses-là.
Oui, d'accord.
Alors allons-y comme ça.
Donc.
D'où vient la Divine Comédie ?
D'où vient la Divine Comédie ? Donc, la Divine Comédie est un poème qui a été écrit par Dante Alighieri. qui est florentin, mais qui a une histoire compliquée parce qu'il est florentin, mais il est pris dans des... Sans rentrer trop dans les détails, parce que ça pourrait être fastidieux, mais il est pris dans des guerres intestines qui ravagent la ville de Florence à cette époque-là. Et donc, tout ça aboutit finalement à une visite à Rome, où il est envoyé à Rome comme ambassadeur. Je dis ça parce que c'est important, c'est à ce moment-là où narrativement il place le moment où arrive son voyage en enfer, au purgatoire et au paradis, donc en l'an 1300, alors que ça a été écrit évidemment des années plus tard. Toujours est-il qu'à partir de ce voyage à Rome commence son exil et donc toute une série de pérégrinations où finalement il ne rentrera pas dans sa Florence natale, jusqu'à sa mort à Ravenne. Donc il sera accueilli par différentes personnes, mais du coup il aura une vie itinérante à partir de là.
Selon toi, qu'est-ce qui l'a amené à produire cette œuvre-là, qui est quand même une œuvre majeure, complexe, complète, pléthorique? C'est l'œuvre d'une vie quasiment.
Oui.
Est-ce qu'il y a des éléments autobiographiques à l'intérieur? Est-ce qu'il y a un cheminement spirituel?
Oui, je pense qu'il y aurait plusieurs choses à dire. Il faudrait. Évidemment, comme je viens de parler du côté plus historique, il y a une nette envie qui se manifeste en particulier dans l'enfer de régler ses comptes avec les gens qui ont pu lui nuire de façon plus ou moins directe. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est un début un peu, on pourrait dire, de prendre une espèce de revanche sur le réel. Il y a aussi une volonté poétique, enfin vraiment un enjeu littéraire, l'idée d'arriver vraiment à un statut de poète et même du plus grand poète possible. Donc ça, c'est un enjeu qui se manifeste davantage par rapport à la langue elle-même, par rapport à l'ambition du poème, au fait de vouloir faire trois parties en 33 chants avec tel nombre de vers et avec une structure stylistique qui est très rigide. Et puis il y a un enjeu plus spirituel, on pourrait dire, au sens où par rapport aux œuvres précédentes de Dante, où il avait innové particulièrement par rapport à des courants qui étaient à la mode à cette époque-là. Et là, il y a un espèce de un peu d'abandon d'une certaine prétention poétique en disant bon, ça suffit de faire des trucs à la mode, il faut viser au plus important et donc viser à ce qui nous attend après.
Exactement. Peut-on dire de Dante qu'il est également du coup un peu un diariste, du fait justement de cette formulation de... Alors c'est un poète bien entendu, c'est une poésie, c'est une œuvre littéraire intemporelle dont tu vas je suppose ensuite nous dire aussi la suite, la perspective actuelle, la contemporanéité de cette œuvre. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est également quelque part une sorte de journal intime qui est dévoilé de son cheminement spirituel?
Oui, alors je pense qu'on peut le dire sous certains aspects. Parce que c'est une œuvre qui est extrêmement personnelle, où il parle de lui, même si évidemment il faut toujours différencier l'écrivain et puis le jeu narrateur et donc le personnage qui poursuit cet itinéraire. Mais surtout pour l'époque, c'est quand même l'emploi d'une première personne du singulier qui est extrêmement marquante. C'est pas quelque chose qui est si commun que ça. On est plutôt dans une période où on a des grands récits épiques ou des poésies courtoises par exemple, mais où du coup le jeu est moins personnel que ça.
C'est-à-dire que si on replace l'œuvre dans son contexte, est-ce qu'elle jure avec une sorte de mode de l'époque? Est-ce que là elle serait en contradiction avec ça?
Alors elle se détache nettement, et en même temps elle se rattache à différents courants, mais c'est un peu cette pluralité de traditions différentes qui fait aussi l'originalité de Dante. Par exemple, je parlais du jeu tout à l'heure, de la première personne, de son emploi. C'est quelque chose qu'on peut trouver dans les écrits mystiques. Mais à côté de ça, la Divine Comédie est aussi un poème. C'est aussi un poème qui rassemble des descriptions politiques, des descriptions aussi philosophiques, cosmologiques. Il y a vraiment cette volonté de rassembler aussi tout un savoir qui est extrêmement caractéristique. Mmh. Et du coup, oui, c'est un peu de se trouver en, comme en plaque tournante de toutes ces traditions-là qui est vraiment remarquable.
À l'époque, l'œuvre, comment a-t-elle été accueillie par les gens de la plèbe et puis par ses pairs et par les institutions qui régnaient à l'époque, l'Église, notamment le clergé?
Alors, je sais que ça a été un grand succès, mmh. Mais donc du coup plutôt en tant que réception littéraire. Malheureusement, je ne saurais pas vraiment vous dire au niveau de la réception, par exemple, de l'Église. Ou,
Donc, il n'a pas été inquiété. Je pensais à Giordano Bruno, hein, qui a fini de brûler vif. Voilà. Lui n'a pas été inquiété particulièrement concernant aussi. Alors, Stéphanie, tu as...
Oui, d'après ce que j'ai lu, il a été quand même inquiété par le pape, parce qu'il faisait, je crois qu'à un moment donné, enfin, il attaque même, enfin, c'est sûr, dans l'enfer, il y a le pape et tout ça. Donc là, il était inquiété, et quelques années plus tard, donc après sa mort, hein, bien après sa mort, il a été en fait pardonné par l'Église catholique romaine, et puis là, il est devenu en fait une grande figure du christianisme, finalement, des années, enfin, de la Renaissance, quoi. Mais en tout cas, pendant, je pense, 100 ans, quelque chose comme ça, il a été... Parce qu'en fait, le pape, il le fait brûler, hein, en enfer. Donc, oui, oui. Pour ça, il a été gravement, disons que... Je ne sais pas comment on dit, en fait, il a été excommunié ou quelque chose comme ça. Et puis, en fait, après, il a été pardonné et réhabilité. Voilà, c'est ça, en fait.
Mm-hmm. Ouais. D'accord. Mm-hmm. Et au sein de la population, est-ce que ce type de récit, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui était peut-être un petit peu inhabituel, donc ça a quand même été un succès?
Alors, quand je parlais de réception littéraire tout à l'heure, c'est quand même une réception parmi les gens qui ont un certain niveau de culture, qui sont capables de lire, voilà, à l'époque, ouais. Enfin, de lire ou d'entendre lu, parce que la poésie se lit quand même surtout à voix haute. Au niveau de la réception plus populaire, immédiatement, je pense pas trop, mais plus par rapport à un accès à la culture qui est très différent de ce qu'on connaît. Par contre, Dante et la comédie deviennent très populaires très rapidement, notamment avec la vie de Dante écrite par Boccaccio. Mm-hmm. Et tout ce que Boccaccio raconte sur Dante, ça le rend un personnage très populaire. Et puis bon, après, évidemment, c'est un modèle très tôt dans la littérature pour d'autres écrivains, et ça à un niveau européen. Et puis après, c'est évidemment pour les Italiens constitutif aussi comme modèle littéraire qui crée une unité nationale. Donc, oui.
C'est un texte, vraiment, il y a une centralité en tout cas en Italie de tout point de vue, à tout point de vue, artistique, poétique, littéraire, effectivement. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Y a-t-il selon toi un avant et un après Divine Comédie?
Oui, je pense, évidemment. Enfin, en tout cas, disons qu'on pourrait difficilement... C'est difficile de parler d'avant et d'après. Enfin, mmh. C'est un peu une expression ouais, qu'on utilise plus par rapport à des choses qui se passent aujourd'hui. Mmh. Mais oui, non seulement parce qu'il marque aussi vraiment le passage d'un siècle à un autre, du 13e au 14e siècle. Et ça, c'est aussi très important. Et stylistiquement, Dante, quand il écrit la Divine Comédie, il est déjà un poète extrêmement reconnu. Donc pour la communauté littéraire de l'époque, oui, il y a aussi, évidemment, ça représente un changement de modèle à suivre.
Très bien.
Ça, c'est sûr.
Et alors là, peut-être que là, c'était un des liens que vous avez fait ici à l'Espace Kugler, Marisa, Stéphanie, dans une sorte de modernité, de réappropriation de ce texte et de ses contenus. Mm-hmm. De quelle manière est-ce que vous l'avez réinventé, cette Divine Comédie de Dante Alighieri? Pour vous, y avait-il urgence? Est-ce qu'on est dans un moment justement charnière où, oui, effectivement on pouvait, où il était même urgent de reprendre ce genre de texte et puis d'en faire quelque chose?
Oui, pour moi c'est très, très actuel, ce texte, dans le contexte du changement climatique, les migrations forcées des masses. Et je pense, bon, dans l'art contemporain aujourd'hui, il y a une grande tendance vers, de nouveau, la narration et les témoignages. Aujourd'hui, presque dans tous les grands rassemblements d'art contemporain, c'est nécessaire de raconter les petites histoires, les petites narrations, qui donne compte de comment c'est vivre hors, quelque part, les conforts des droits de l'homme. Que c'est une réalité qui devient de plus en plus généralisée et que finalement, les droits de l'homme, maintenant, c'est un monopoly qui est réservé à une minorité. Donc, dans ce sens-là, je trouve cette histoire peut aider et c'est pour ça que j'avais pensé de ce rêve que j'ai fait comme une espèce de liaison à la Divine Comédie parce que c'est un rêve où moi, en tant que femme migrante qui arrive à Genève, qui ne connaît personne, se trouve comme dans un lac congelé et qui n'a pas possibilité ou qui a très peur de se couler. Et dans le rêve, il y a deux personnes qui apparaissent qui me aident à ne pas tomber dans ce trou. Et finalement, là, je trouve comme des escaliers moi-même pour accéder à des savoirs de nouveau mystiques et spirituels pour pouvoir devenir une parmi les autres et pas être marginalisée quelque part. Mais par des outils spirituels, pas de la connaissance formelle.
Oups, là, il y a...
Donc ça, c'était l'exemple. C'est pour ça qu'on a voulu rentrer dans ce texte parce que quelqu'un m'a dit « Ah, ça, c'est comme un passage de la Divine Comédie. » Et je pense que là, il y a une grande idée.
Ouais, donc il y a vraiment, pour vous, des analogies évidentes à faire entre ce texte qui date quand même, enfin, qui date de 1300, c'est ça à peu près ?
Oui.
Et une période trouble que l'on traverse actuellement. Ouais. Stéphanie ?
Oui, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que en fait, Dante Alighieri, il était aussi assez moderne dans ses idées. Et puis, il y avait aussi toute une partie de la bourgeoisie donc, de Florence qui voulait quand même garder plus de pouvoir, etc. Et puis qui manipulait aussi beaucoup l'opinion. Et c'est un peu ce qui se passe maintenant. Et l'histoire de Dante, c'est assez fort parce que c'était quand même quelqu'un d'assez engagé qui s'est fait lyncher, en fait, socialement. Il a été tué socialement et exil, donc il a été forcé à l'exil. Mais il a été trahi par ses amis, il a eu... Donc ça, c'est extrêmement contemporain aussi dans le fonctionnement. Et ce texte, il l'a aussi écrit, je pense, je trouve artistiquement, c'est super intéressant parce que c'est là aussi où on voit que l'art peut être vraiment un moyen de régénération ou de lien ou d'intégration, c'est-à-dire qu'il s'est reconstruit, je pense, hein, ça c'est une interprétation que je fais, en écrivant cette histoire finalement par rapport à ce qui... Parce que bien sûr l'enfer c'est la colère, c'est la haine, c'est la rage, le purgatoire c'est le début du pardon, on pourrait se dire ça, et puis le paradis c'est le moment où il arrive finalement à pardonner puis à retrouver en fait un bien-être et puis un sens finalement à tout ce qui lui est arrivé. Et en fait, ça aussi, c'est très contemporain parce que les personnes qui sont engagées, hein, que ce soit dans n'importe quelle, que ce soit dans les associations, dans de la politique, ou bien pour défendre les droits de l'homme, ou pour la nature, ou autre, elles vivent aussi beaucoup ça, des trahisons, des coups de poignard, enfin des choses extrêmement. Et c'est aussi dire, voilà, on passe par là, mais on se reconstruit. Mais c'est pareil, même pour des gens, je dirais entre guillemets, qui sont pas forcément dans la politique et autres, mais qui doivent quitter par exemple leur pays parce que c'est la guerre et puis ils perdent une partie de leur famille, donc ils perdent aussi leurs racines. Et quand ils arrivent quelque part, ils doivent se recréer un récit en fait. Ils doivent créer une histoire pour pouvoir remettre des racines et puis vivre en fait. Donc c'est dans ce sens-là où je trouve que c'est vraiment fantastique, c'est vraiment extrêmement contemporain. Enfin, c'est vraiment plus que contemporain, je dirais que c'est un peu universel dans le processus en fait, et j'aime beaucoup cette manière de, parce que je pense que l'art c'est une des seules choses comme l'humour hein, qui sauve les humains, parce que sinon je trouve qu'on est absolument épouvantable. Okay. Et je trouve que voilà, c'est ça finalement qui m'intéresse en fait, c'est cette possibilité de régénérescence en fait, de résilience à travers l'art et puis la culture, enfin que ce soit littéraire, musical, plastique, et je pense que ça m'a beaucoup parlé.
Alors justement Jérôme, ça me permet de te poser la question suivante. Là on parlait d'art et de médium, de quelle manière est-ce qu'on y arrive? Toi-même tu as, et Stéphanie vient de rappeler, comme notre civilisation et comme notre condition de simples humains est terrible et qu'elle contient du malheur, de la souffrance et de la dureté. Toi, tu es un artiste, tu es également permaculteur, et tu as, à l'occasion justement de cet événement, ici à l'Espace Kugler, produit l'œuvre Perma Love Culture. Alors, tu t'es inspiré également de cette ligne conductrice de la Divine Comédie. Et ce que toi, tu en as sorti, c'est des plantes, et des plantes qui sont des plantes nourricières, qui sont des plantes belles, esthétiques. Comment est-ce que tu en es arrivé à cette conclusion-là? Enfin, à cette interprétation-là, en tout cas. Puis juste encore une chose, pour les personnes qui sont là autour de nous, vous êtes bien entendu les bienvenus si vous souhaitez intervenir. Les micros sont à disposition, il faut juste nous faire un petit signe. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une interaction, hein, bien entendu. Donc, soyez bienvenus, quoi. Voilà, excuse-moi. Jérôme, dis-nous.
Eh ben, par rapport à mon travail, en fait, mon travail n'était pas en lien avec la Divine Comédie directement. La Divine Comédie est arrivée comme projet à la suite du travail. Mais dans un travail qui serait, disons, de créer du lien entre les gens ou de proposer des solutions, je ne sais pas si elles sont paradisiaques, mais en tout cas où elles peuvent questionner le rapport qu'on peut avoir avec les gens autour de soi et puis les différentes catégories. Je me posais d'ailleurs la question à un moment donné quand on parlait du populaire à ce moment-là. C'est vrai que si on imagine quel était le pourcentage de la population qui pouvait lire le texte ou même qui pouvait avoir accès à la connaissance de l'existence de Dante, je pense qu'il y avait des histoires qui devaient tourner en tant que presque comme troubadour et autres. Il pouvait peut-être être un personnage de l'époque, mais c'est vrai que je trouve que maintenant on est effectivement l'enfer serait peut-être l'information ou tellement ton d'informations que c'est un petit peu difficile de les sélectionner, de s'y retrouver, de simplement avoir quelque chose qui est quelque chose d'autre qu'une information, c'est-à-dire juste un fait qui se passe à un endroit, mais d'avoir un petit peu de recul. Je pense que le fait d'essayer de créer une unité de temps et de lieu et avec des gens, dans un travail comme celui-ci, créer des liens entre différentes catégories de la population qui ne se causent pas forcément. C'est-à-dire quelqu'un qui aime bien un tournesol va peut-être venir à l'art par ce biais-là, alors qu'un artiste viendra puis discutera, je sais pas, peut-être du concept du travail. Mais les deux personnes peuvent se rencontrer au travers d'un travail comme celui-là. Et par rapport à la Divine Comédie, moi j'ai eu l'impression dans ma performance de la vivre en très réduit, en passant justement de l'enfer au purgatoire et à finalement pouvoir la retrouver à peu près entière aujourd'hui et considérer que ce sera peut-être mon paradis d'aujourd'hui. Alors s'il faut un lien très net entre les événements et le temps et le présent et les gens, bah, c'était ça.
D'accord, en tout cas effectivement elle siège ici maintenant, elle est bien là en plein soleil comme ça, elle est flamboyante. Il y a ce côté aussi par le biais de la permaculture, d'une forme de cycle finalement des choses qui durent, d'une sorte d'éternité, d'harmonie. Il y a beaucoup de choses quand même qui jouent que l'on peut retrouver dans la Divine Comédie.
Alors moi j'aimais bien la forme de la spirale, dans la, qu'elle soit descendante ou montante en l'occurrence, dans la Divine Comédie, parce que je trouve que c'est assez ça. Pour moi la vie est plus dans un... Alors je suis moins dans un rapport de verticalité, on dira, mais par contre, en tout cas, dans un rapport de cycle. Et de cycles qui ne vont pas revenir au même endroit, parce que forcément, il y a une année qui a passé, que ben, c'est déjà la forme de la spirale, parce qu'on n'est plus exactement au même point quand on revient une année après.
Alors Hélène, voudrais-tu répondre à la question que posait Jérôme concernant la proportion des populations qui ont pu accéder à ce texte? Est-ce qu'on sait si effectivement... Il y a eu quand même beaucoup de gens issus des classes populaires qui ont pu y accéder ou que c'était compliqué. Et de cette manière-là, est-ce que effectivement c'est aussi une tradition orale qui a permis l'extension du texte?
Oui, alors comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été un grand succès littéraire dès la parution des premières parties. Mais comme je l'ai dit également, évidemment la proportion de la population qui pouvait accéder à ce texte-là était assez réduite. Au niveau de la tradition orale, je sais pas. L'ère des troubadours est quand même déjà terminée à ce moment-là. On n'est plus exactement dans la même perspective. Et on est. Même si, donc j'ai dit, et comme c'est le cas jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la littérature et en particulier la poésie se lie à voix haute. Mais on est quand même passé par rapport à la culture des troubadours dans une culture de l'écrit de façon décisive. Maintenant, ce qui est clair, c'est que c'est une œuvre qui devient populaire extrêmement rapidement, enfin avec un accroissement qui est très rapide.
À quel moment est-ce qu'elle est entrée vraiment dans le corpus scolaire? Parce qu'effectivement, c'est maintenant quelque chose qui est enseigné en Italie partout. Est-ce que tu sais à quel moment elle passe vraiment d'un côté, disons, d'un statut vraiment de pure œuvre poétique à un matériel scolaire, didactique, pédagogique?
Je dirais au moment du 19e siècle, enfin tant parce que, c'est le moment où l'école s'institutionnalise, évidemment.
Donc très naturellement, elle est arrivée vraiment automatiquement.
Et parce que aussi c'est le moment où commence à se construire l'unité italienne. Maintenant, j'en profite pour dire que dans le public, il y a plein d'Italiens. Donc si quelqu'un veut me corriger à un moment donné...
Voilà. Et puis de nouveau, on a ici un petit exemplaire en italien de la Divine Comédie. Si des personnes souhaiteraient y lire un extrait qui vous rappellerait, je ne sais pas, un temps passé ou une Madeleine de Proust comme ça, n'hésitez pas, là aussi c'est à disposition. Je me demandais, toi donc ça a été un sujet d'étude pendant de longs mois, pire que ça.
C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur ça au cours de mes études à l'université, en licence, donc bachelor, master. Et j'ai commencé à accéder au texte par la philosophie médiévale. Donc j'avais un parcours qui était entre littérature et philosophie, et je voulais travailler en philosophie médiévale, donc j'ai commencé à travailler sur la Divine Comédie à cause de ça. Mon angle d'approche était comment est-ce que Dante, dans tout ce voyage, peut continuer à percevoir avec le corps qu'il a et qu'il est obligé de traîner pendant tout l'enfer, le purgatoire et le paradis, selon la conception qu'on a de la perception à l'époque médiévale. Et comment ensuite est-ce qu'il peut raconter ces choses-là? Parce que le problème de dire les expériences qu'il fait se pose à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le fait que c'est des expériences excessives, donc il voit des choses très 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 horribles en enfer, très 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 belles au paradis, donc à chaque fois, évidemment, le tour rhétorique le plus usuel, c'est de dire c'est tellement beau que je peux pas le dire, ou c'est tellement horrible que je peux pas le dire. Et puis bon, après, il y a d'autres façons poétiques et rhétoriques de dire ça aussi, d'exprimer ces expériences d'excès. Et il y a aussi, mais plus particulièrement au paradis, et donc j'avais plus particulièrement travaillé sur le paradis à cause de ça, c'est que c'est des expériences extatiques, où du coup, on perçoit pas les choses de la même façon, et en plus, la mémoire ne peut pas suivre ce dont on fait l'expérience. Donc ensuite, une fois que l'expérience se finit, c'est plus possible de la raconter parce qu'on n'en a plus la mémoire.
D'accord. Alors, c'est-à-dire que c'est un récit, une œuvre pour laquelle on peut avoir différentes grilles de lecture, différents niveaux de grilles de lecture. C'est-à-dire qu'on peut l'imaginer comme une œuvre de, je sais pas, de science-fiction, comme une œuvre vraiment purement poétique. Il y a ces différents degrés de lecture à l'intérieur.
Oui. Ça, je pense que, enfin, de toute façon, c'est difficile d'essayer d'approcher la Divine Comédie à partir d'un seul axe ou d'une seule grille de lecture. Et puis il est clair que c'est un texte qui rassemble des genres très différents et des références très différentes aussi, et qui a une volonté encyclopédique caractéristique. Enfin, ça, on a évoqué ça tout à l'heure. Donc oui, c'est très réducteur d'essayer de l'attaquer par un seul angle d'approche.
Tout à fait. Alors justement, comment est-ce qu'on traverse une telle œuvre? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a cette expérience statique, il y a ces extrêmes qui sont présents partout. Comment est-ce qu'on chemine au travers de cette œuvre-là? Comment elle influe sur nous? Tu sais, j'ai l'impression que c'est une œuvre dans laquelle, à chaque page que l'on lit, finalement, on change un peu. On est tout le temps dans une sorte de remise en question de soi-même, de découverte vraiment de soi. Et comment est-ce qu'on en sort? Je veux dire, une fois que tu as fait tout ce travail-là, tu n'étais plus la même d'avant, j'imagine.
Oui. Oui, alors c'est sûr. Je pense que bon, après on pourrait dire ça de plusieurs œuvres littéraires ou artistiques en général. Néanmoins, c'est vrai que c'est une œuvre tellement énorme qu'elle laisse pas indemne. Ça demande aussi tellement d'efforts de la lire, parce que c'est une œuvre qui est difficile d'accès, que le résultat de ces efforts est aussi évidemment une transformation de soi en tant que lecteur, voire en tant que personne.
S'il fallait fixer comment dire, je sais, là aussi c'est une question un petit peu difficile, mais c'est vraiment pour essayer d'arriver à saisir l'importance de la qualité de ton travail. S'il fallait que tu résumes certains thèmes conducteurs qui t'ont transporté et qui, voilà, qui sont projetés dans une sorte d'éternité a posteriori, lesquels seraient-ils ? Donc il y a effectivement le paradis, l'enfer, et là on a compris la structure du texte, mais selon, disons, ton ressenti, est-ce que, comme l'on dit tout à l'heure concernant la manière, la réappropriation par l'art contemporain de cette œuvre, selon toi, quelles seraient ces spirales dont nous parlait Jérôme, cette suite possible, cette actualité que contiendrait la Divine Comédie au travers, par le regard de notre actualité ?
Alors, je pense que c'est une question difficile, et du coup, je dois dire que quand Janice m'a parlé du projet au départ, ça m'a vraiment intéressée parce que je trouvais que c'était, enfin, ça m'intéressait d'aller parler de ce que je faisais ailleurs qu'à l'université. Mais c'est un exercice qui est très difficile parce que c'est compliqué. D'essayer de trouver justement des approches contemporaines qui ne soient pas réductrices justement parce qu'on disait de la pluralité des grilles de lecture. Je pense qu'il y a un enjeu qui est très très important, c'est l'enjeu politique de la comédie qu'il ne faut pas réduire à mon avis à une espèce de transformation personnelle de la part de Dante, d'essayer... Il y a ça aussi, c'est sûr, mais d'essayer de se guérir de son exil, etc. Je pense que c'est assez réducteur de le voir d'une façon qui serait peut-être un peu trop psychologiste. Et qu'il y a un enjeu politique donc, qui demande un travail de remise en contexte pour le lecteur d'aujourd'hui. Mais oui, ce que veut Dante, c'est aussi donc régler ses comptes avec certaines personnes, proposer des modèles politiques. Ça, il le fait dans des textes plus théoriques qu'il a écrits avant. Il y a le « Des monarchies », par exemple. Donc, proposer des modèles politiques et aussi acquérir de nouveau une légitimité en tant que, cette fois, poète et donc se réaffirmer par cette voie-là.
Ni la lumière, ni l'obscurité ne sont là où on le prétend. La Bibliothèque du Peuple, lecture sur place, prêt gratuit, anonyme et par correspondance. Info sur www.libertaire.noblogs.org.